Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
La dernière fois, nous étions arrêtés à cette fin du 19e siècle qui va être la préparation immédiate à la loi de 1905. Cette loi va inaugurer une nouvelle époque dans laquelle nous sommes toujours, mais on ne sait pas toujours très bien les conditions dans lesquelles cet avant 1905 s'est développé. Je voudrais rappeler trois points. Où en était la République ? Où en était ensuite la mise en place d'une laïcisation de la vie sociale avant d'envisager la situation des religions qui, à l'époque, est encore gouvernée par le concordat de Napoléon. Alors d'abord, où en sommes-nous du point de vue de la République à la fin du XIXe siècle ? Je voudrais dire que contrairement à l'opinion de beaucoup qui croient que la République s'est installée après l'échec du Second Empire, en quelque sorte sans trop de problèmes, comme une sorte de réaction normale, que les choses ne sont pas passées aussi facilement ni aussi bien. Il faut savoir que lorsque le régime de Napoléon III s'écroule, la tendance majoritaire en France n'est pas une tendance républicaine. C'est une tendance, au contraire, très conservatrice, monarchiste et même catholique. Et on voit que pendant quelques années, entre 1870 et au fond 1879, donc pendant presque 10 ans, on va balancer entre un régime provisoire dont on ne sait pas très bien de quel côté il penchera, et puis l'installation réelle de la République. Cet entre-deux, c'est une période d'échec de la restauration monarchique. En effet, on élit provisoirement un président de la République, mais ça ne veut rien dire de plus qu'un président de l'État pour assurer les affaires courantes, qui est Mac Mahon. Et Mac Mahon est un militaire qui est très catholique et surtout très conservateur et monarchiste. Et donc son idée, c'est de revenir à ce qu'on appelait l'ordre moral. Il va largement accentuer cette idée que si on a perdu la guerre, c'est que la France avait perdu sa moralité, et va faciliter ou tenter de faciliter le retour à un régime stable qui serait la monarchie. Problème, on avait deux prétendants au trône. Ça ne s'invente pas. On avait le descendant de la ligne aînée des Bourbons, un descendant de Louis XIV, on peut dire, qui était le comte de Chambord, puis plus tard appelé comte de Bordeaux. Et puis, on avait le représentant de la ligne des cousins du frère de Louis XIV, la famille d'Orléans, le comte de Paris. Et ces deux prétendants représentaient en fait deux restaurations monarchiques différentes. Le comte de Paris était finalement proche d'une monarchie peut-être un peu à l'anglaise et qui aurait été assez moderne et qui aurait accepté en tout cas tous les acquis de la Révolution. Et donc ça va très bien dans la famille d'Orléans. N'oubliez pas que le cousin d'Orléans, le cousin de Louis XVI, a voté la mort de son cousin pour la guillotine, et que les Orléans apparaissent au XIXe siècle comme une possible ressource d'un régime libéral, d'un régime plus moderne. En revanche, le comte de Bordeaux, alors là, c'est une catastrophe. Il a vécu tout le temps en exil et il a vécu dans un milieu étroitement conservateur. Il ne connaît rien de la France de la fin du XIXe siècle. Et lui, il est persuadé qu'on va restaurer la monarchie comme si on était au XVIIIe siècle. Et les choses vont craquer alors que tout est prêt pour restaurer la monarchie et que même entre les deux prétendants, un accord s'est fait. Comme le comte de Bordeaux ne peut pas avoir d'enfant, à sa mort, il laissera la place au comte de Paris et rouler jeunesse. Problème, c'est que, alors que tout est prêt, y compris la cérémonie du couronnement qu'on a préparée, alors que tout est prêt, il suffisait de changer quelques mots dans la constitution provisoire pour installer la monarchie, qui aurait été un peu une monarchie à la scandinave ou à l'anglaise, voilà que le comte de Bordeaux fait une sorte de grand discours, de grande adresse à la nation, et il dit qu'évidemment, il ne peut pas monter sur le trône en oubliant le drapeau de ses ancêtres, c'est-à-dire le drapeau blanc. catastrophe. On avait pensé à tout, sauf que cet imbécile ne voudrait pas du drapeau tricolore. Donc, c'est la complète déconvenue dans le camp des conservateurs, et c'est dans ces conditions qu'on vote la loi du septennat pour le président. C'est-à-dire qu'on se donne 7 ans pour que MacMahon ait le temps peut-être de faire en sorte que les choses s'arrangent. Et on dit méchamment à l'époque, on espère pendant ces 7 ans que Dieu saura ouvrir les yeux du comte de Chambord ou saura les lui fermer définitivement. Et donc laissant la place au comte de Paris. Et donc voilà pourquoi ce provisoire à partir de 1874-75 ne peut pas durer de manière indéterminée. On va voter quelques lois supplémentaires qui vont être les lois fondatrices de la Troisième République. Donc on a eu chaud, on a passé à côté d'une restauration monarchique extrêmement traditionnelle où d'ailleurs l'Église aurait trouvé évidemment toute sa place. Alors, on a créé un régime républicain, et ce régime républicain, il va s'affronter très rapidement aux difficultés d'une opposition frontale de l'Église catholique qui, très conservatrice depuis Rome, avait imaginé être tout à fait à l'aise dans un retour à la tradition qui aurait conforté l'Église catholique dans son magistère, parce que, nous l'oublions pas, depuis le milieu du XIXe siècle, l'Église catholique est en train de perdre progressivement des places, et notamment non pas dans les campagnes, qui restent très religieuses, mais dans les villes. Or, la France est en train de basculer dans une société urbaine et d'ouvriers, et évidemment, dans la ville, et surtout chez les ouvriers, la préoccupation catholique est de moins en moins importante, et donc l'Église perd du terrain. Et parce qu'elle perd du terrain, qu'elle pense qu'il faut le reconquérir, d'où, vous pouvez le voir si vous circulez dans toutes les villes de France, à commencer par Montpellier, ces immenses crucifix, on en a 2 ou 3 dans Montpellier, vous en avez un juste en dessous du Pérou, là devant pratiquement l'Arc de Triomphe, vous avez un grand crucifix face au Halles Lessac, au centre de Montpellier, qui sont toutes le résultat d'une action qui en général était initiée par l'évêque, et qui consistait à re-christianiser les lieux avec force procession et puis litanie. Et il est dit que grâce à ces manifestations, on va ramener le peuple à la vraie foi. C'est dire l'angoisse où l'on est à cette fin du 19e siècle devant la perte d'autorité de l'Église catholique dans le tissu social. Et il se trouve que comme les Républicains vont gagner les élections en 1879-1880, là s'inaugure une autre phase. On a consolidé la Troisième République, on est vraiment en République. L'idée d'une restauration monarchique est passée, plus personne ne croit à cette possibilité. Et on va voir comment, ce que oublient souvent les Français, on va progressivement mettre en place des lois laïques bien avant la loi de 1905. Je vous en donne quelques exemples de ces lois qui vont s'égrener en gros entre 1880 et 1890. Exemple très significatif, 1881, les lois sur l'instruction, qui est obligatoire, et lorsqu'elle se fait dans le cadre public, les maîtres sont obligés d'être laïcs, donc pas de possibilité d'embaucher des prêtres dans les écoles publiques du premier degré. 1881, la même année, la loi sur les cimetières communaux. N'oubliez pas que jusque-là, ils sont gérés par les paroisses catholiques et qu'on n'enterre ni les juifs, ni les protestants, ni les suicidés et ni, comme disait ma grand-mère, les femmes de mauvaise vie. Et évidemment, pas les francs-maçons et les agnostiques. Et bien, à partir de 1881, c'est terminé, le cimetière communal devra enterrer toutes les personnes qui sont décédées dans la commune. C'est très important parce que ça veut dire que la laïcité gagne ici un terrain qui est quotidien, hein, parce que la mort nous accompagne tous les jours de notre vie. Et puis 1882, les enseignants du système public de l'école doivent être obligatoirement laïcs. 1886, les maîtres des écoles doivent être obligatoirement laïcs. 1884, je remonte un petit peu, rétablissement du divorce, qui avait été supprimé depuis la monarchie du début du 19e siècle, comme une espèce de réaction catholique interdisant que l'on puisse rompre le serment sacré du mariage. Mais également en 1884, la fin des prières publiques. Est-ce que vous savez qu'avant l'ouverture du Parlement, le dimanche qui précédait l'ouverture du Parlement, en octobre ou novembre, il y avait des prières publiques qui étaient dites dans les églises et dans les temples. C'est supprimé. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a une continuité, puisque cette loi ne l'a pas prévue, il y a des prières publiques chaque année qui sont dites dans les synagogues. Dans les synagogues, les Juifs prient chaque année un samedi particulier pour l'avenir et la confortation de la République. Et puis, de même, on va voir plus tard la loi sur la presse, enfin un peu plus tôt, la loi sur la presse en 1881, qui déclare que désormais, sauf si on injurie ou si on diffame quelqu'un, on peut dire tout ce que l'on a envie de dire. Et cette loi est toujours applicable d'expression de la liberté pour chacun d'entre nous. Et enfin, je termine par la loi de 1901, que tout le monde connaît, c'est la loi sur les associations, mais vous ne connaissez que le chapitre 1. Mais il y a le chapitre 2, et le chapitre 2, c'est sur les congrégations. Et alors, autant le chapitre 1 est libéral, ouvert, on peut constituer très facilement une association et très librement en France, autant le chapitre 2 sur les congrégations est une espèce de tour de vis, elles doivent demander l'autorisation, et comme elles ne les obtiennent pas, des centaines de congrégations sont expulsés de France. Donc vous voyez que pendant une vingtaine d'années, entre grosso modo 1880 et 1900, puisque c'est couronné par la loi de 1901, on prépare la société française à une laïcisation de ses institutions. C'est, me semble-t-il, ce qui permet de comprendre comment on va devoir résoudre les problèmes de la présence de la religion ou des religions dans notre société. Alors, dans cette France qui a versé enfin dans la République, dans cette France qui a déjà laïcisé un certain nombre d'éléments de la vie sociale, quelle est la situation des religions ? Eh bien, elle est archaïque, puisqu'elle remonte au Concordat de 1801 ou aux articles organiques pour les protestants et les juifs de 1802 ou 1808. Situation archaïque, puisque dans une France qui est désormais républicaine, dans une France où on a laïcisé, je vous l'ai montré, un certain nombre d'espaces sociaux, les églises chrétiennes plus le culte juif ont une position officielle, ce sont des églises ou des cultes d'État. Alors évidemment, dans cet ensemble, c'est le bloc catholique qui est le plus important et surtout qui manifeste le plus de défiance à l'égard d'une république laïque. L'Église catholique, dans cette fin du XIXe siècle, est en train de solder tous les comptes perdus du XIXe siècle. Cette Église catholique a accumulé depuis un siècle la mécompréhension de ce qui était en train de se passer. Et donc, elle est en train de se raidir, croyant que, en réaffirmant avec violence les dogmes et l'autorité de l'Église, elle va regagner du terrain. C'est exactement le contraire qui va évidemment se passer. Dès 1864, on est sous Napoléon III, le pape Pie IX, dans une encyclique « Quanta cura », fait la liste de toutes les horreurs philosophiques que la société moderne a produites, et notamment l'idée de liberté, l'idée de république, l'idée d'égalité, autant de choses qui apparaissent pour l'Église catholique contradictoires avec le message chrétien. Il faut le faire. Et donc l'Église est absolument à contre-courant et elle va, dans le dernier tiers du XIXe siècle, je viens de vous le montrer au moment où progressivement on laïcise des pans entiers de la vie sociale, elle va se raidir dans des positions de plus en plus anachroniques et soutenir des mouvements franchement réactionnaires, c'est-à-dire qui veulent revenir en arrière, notamment soutenant les fractions monarchistes dans l'échiquier politique. Il y a une tentative de recatholiciser de force la société. On envoie même des missions en France, comme on l'a fait plus tard en Afrique. Il y a une sorte de position qui est intenable à terme, et l'Église rate là toutes les occasions de prendre le train de la modernité. Je voudrais en donner un exemple. Même si l'Église catholique finalement s'est ralliée, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, à la République en 1892, on est vraiment tout à fait à la fin du 19e siècle, par l'encyclique Inter Sollicitudines, même si elle a accepté formellement, en tout cas, le régime républicain, elle va être partie liée à des mouvements extrémistes qui n'ont qu'une envie, c'est de renverser la République. Et peut-être que l'affaire la plus significative, c'est évidemment l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui éclate en 1894 et qui va durer jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1906, est un cas particulier où, tout le monde le sait, un officier juif est accusé tout à fait illégitimement d'avoir été un espion et il sert de bouc émissaire, et malheureusement l'image de l'Ancien Testament est valable ici, il sert de bouc émissaire pas simplement à l'égard de la communauté juive qu'il faudrait accuser de tous les maux, mais de ceux dont est porteur cette communauté, c'est-à-dire finalement des sentiments d'émancipation, de liberté et d'égalité. Et derrière l'affaire Dreyfus, c'est finalement toute la République qui est mise en cause, la modernité, le socialisme, la liberté d'expression, et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est dans ce climat que naît d'ailleurs, je vous le rappelle, la Ligue des droits de l'homme, qui est créée pour défendre Dreyfus, et les protestants y sont très présents, que naît le mouvement dit de la libre pensée, et il y a aussi là des protestants, et qu'au fond, on va voir s'accuser de plus en plus l'opposition entre un régime républicain qui petit à petit non simplement se laïcise mais va peut-être même aller vers des lois sociales et puis une Église catholique qui fait vent debout et pense qu'elle peut reconquérir le territoire sur des bases extrêmement traditionnelles. L'Église catholique a complètement raté ses analyses et son projet. La Chambre des députés devient républicaine dès la fin du XIXe siècle, après que les républicains ont gagné les élections en 1879 et 1880. On met en place, je l'ai dit, toutes ces lois de laïcisation. Et au tout début du XXe siècle apparaît quand même cette idée que on pourrait changer de régime à l'égard des églises et donc passer du régime du concordat, qui a un peu vieilli, pour ne pas dire plus, à un régime dit de laïcité. Qu'est-ce qui va se passer à cette fin du 19e et début du 20e siècle pour que les choses basculent? Il ne faut pas croire que du côté des députés, même les députés radicaux-socialistes ou les députés républicains, il y avait une unanimité pour revoir le concordat. Et même certains très républicains, on va voir lesquels, sont plutôt favorables au maintien du concordat dans la mesure où ils maintiennent de la part de la République une main ferme sur la conduite des églises. Aussi curieux que ça paraisse, les républicains qui veulent sauver la République pensent qu'il faut garder le concordat pour maîtriser une église qui sinon risque de créer des troubles extrêmement graves. Donc, à la fin du 19e siècle, les choses sont peut-être pas, et au tout début du 20e, aussi claires. Le basculement va se produire de manière inattendue par une visite très protocolaire que le président de la République, M. Loubet, va faire au roi d'Italie. C'est dans le cadre des relations internationales et le président de la République va visiter le roi d'Italie à Rome. Et il ne fait pas ce que faisaient d'autrefois les chefs d'État français, il ne va pas rendre visite au pape. Le pape, à l'époque, n'oubliez pas, est enfermé dans son château du Vatican, prétendant qu'il est prisonnier de l'État monarchique, d'ailleurs, italien. Et il prend comme un affront ce fait qu'au fond, il est oublié dans la visite protocolaire et il envoie une lettre à tous les chefs d'État et à tous les États européens, qui est assez injurieuse, cette lettre à l'égard du président de la République. Et là, on voit bien que l'Église catholique n'est pas simplement une Église au sens où nous pouvons entendre, c'est aussi un État, c'est aussi un agent de l'ordre international qui se manifeste comme tel. Donc, cette affront dans les deux sens, pour le pape de n'avoir pas reçu la visite du président Loubet, pour le président Loubet, derrière lui, le gouvernement de la République, les assemblées, d'avoir été vilipendées par cette lettre du pape envoyée dans toute l'Europe, produit en juillet 1904 la rupture des relations diplomatiques entre l'Église catholique comme petit État et avec toutes ses excroissances dans tous les pays, et la République française. D'une certaine manière, on pourrait dire, le concordat est mort. Il est d'une certaine manière aboli par le fait que l'absence de relations diplomatiques fait que s'il n'y a plus désormais de relations entre l'Église catholique et la République, on voit mal comment subsiste un accord qui permettait d'organiser ces relations. Et donc, si j'ose dire, c'est le début de la fin. À partir du moment où la rupture des relations diplomatiques a été consommée, cette idée peut naître qu'après tout, il faut aller jusqu'au bout et ce concordat lié à la fois la République et l'Église catholique en France doit être remis en cause. Pourtant, on est en 1904, le petit père Combes, qui est, on le verra plus tard, le président du Conseil, croit encore que l'on peut renforcer le concordat et qu'on peut rendre plus difficiles les possibilités pour l'Église de gêner la République, mais il va devoir se rallier assez rapidement à l'idée que c'est la fin du concordat et qu'il faut changer de système. C'est que dès juillet 1904, donc vous voyez quelques jours après la rupture des relations diplomatiques, le projet qui a été élaboré dans la commission parlementaire pour revoir le concordat, ce projet commence à prendre forme et d'une manière différente de ce qui avait été imaginé, non pas pour renforcer le concordat et renforcer le contrôle de la République sur l'Église, mais au contraire pour distendre les relations, peut-être même pour séparer l'Église et l'État. Et le petit père Combes, qui n'était pas favorable, mais nous le verrons la fois prochaine à ce système, doit se rallier à l'idée d'une séparation. Il se trouve, pour une raison que je vous expliquerai, que son ministère tombe devant un vote hostile pour des raisons qui n'ont apparemment rien à faire avec le concordat et en réalité beaucoup à voir avec les contrôles que l'on veut exercer sur l'Église catholique. Et dès lors, la voie est libre pour un nouvel homme politique. Il s'agit d'Aristide Briand, qui est un jeune député qu'on ne connaît pas beaucoup, qui va prendre la place de rapporteur de cette commission parlementaire et qui va être l'homme qui va porter la loi de 1905, dont le vote va s'étaler entre le début de l'année 1905 et le mois de décembre, et la loi sera promulguée donc le 9 décembre. Comment cette loi va être préparée et dans quelles conditions, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Au revoir.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.